Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le 7e épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Valérie, chef opératrice. Bonjour Valérie.
Bonjour Pierre-Emmanuel.
Je te remercie de participer à cet épisode de Par Intermittence. Alors tu fais un métier d'image Valérie, comment t'en es venue à travailler dans ce domaine?
Ma première passion c'était la photo. Chez moi ma mère elle faisait des photos et je sais plus si c'est elle ou moi, mais un jour on a eu l'idée de développer nos photos à la maison. Donc elle avait acheté un agrandisseur et dans la salle de bain, un jour par mois à peu près, on changeait la salle de bain en laboratoire de photos. On mettait une planche sur la baignoire, on installait notre agrandisseur, on mettait nos trois bains, un révélateur, un arrêt fixateur, et on s'enfermait dedans. Ma mère, elle était ergothérapeute, ce qui n'a rien à voir avec la photo, mais elle faisait des photos avec les enfants avec qui elle travaillait. Et moi, je faisais beaucoup de photos, enfin c'est là que j'ai découvert la photo, et j'adorais faire des photos, mais j'adorais les tirer. J'aimais beaucoup l'image. Et c'était vraiment une vraie passion. Et puis après, je suis allée dans un ciné-club vers le musée des arts déco qui était pour les enfants. Et du coup, j'ai découvert le monde à travers le cinéma. C'était vraiment fort pour moi. Et voilà, tout à coup, je me suis dit que ce qui m'intéresserait, c'était faire du cinéma, mais de l'image dans le cinéma.
Alors, tu as plusieurs casquettes. Tu as fait et tu fais encore beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, présenter ton métier ou tes métiers?
Du coup, je suis sortie d'une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS en Belgique dans les années 87, donc c'est il y a très longtemps, et j'étais en option image. Et en sortant, je suis devenue assistante opératrice. C'est un métier que j'ai fait pendant 15 ans, que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'était une place privilégiée quand on est assistante opératrice pour voir le film se tourner. On était un peu le même, enfin je me sentais la première spectatrice du film parce que j'étais juste à côté de la caméra. Du coup, j'assistais au plan du film les uns après les autres avec une place très privilégiée, pas dans le viseur de la caméra, mais vraiment à côté. Ça a été mon premier métier, être assistante du cadreur et du chef opérateur sur des tournages de fiction et du long métrage. C'est un métier normalement qui fait école. On ne reste pas assistant opérateur ou assistante opératrice toute sa vie. Et du coup, je voulais passer au cadre et à la lumière comme tous ceux qui sont passés par ce métier en général. Et au bout de 15 ans, en étant sur des longs métrages où on était des grosses équipes de 50, moi j'ai adoré voir les gens travailler en équipe, j'ai trouvé ça super. Et du coup, j'ai beaucoup aimé faire ce métier, mais au bout de 15 ans, je me suis dit, allez Valérie, tu essayes de passer au cadre et à la lumière. Et là, j'ai bifurqué dans le documentaire, où on n'est plus des équipes de 50, on est des petites équipes. Chaque film documentaire a sa propre écriture, ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, j'ai fait une formation qui s'appelle des ateliers Varan pour me former comme réalisatrice de documentaires. Et j'ai eu la chance de tourner des documentaires dans un territoire particulier à Paris, dans le 18e, où j'ai filmé des jeunes de ce quartier à qui j'ai voulu donner une visibilité, parce que le 18e, c'était un quartier défavorisé. Et du coup, on voyait pas qu'en fait, il était en même temps plein d'énergie, d'une jeunesse multiculturelle qui, peut-être parce qu'ils avaient grandi plus dans la démerde, se battaient vraiment. Donc soit des artistes, j'ai filmé un crumper, j'ai filmé un boxeur qui a été champion du monde quand même, j'ai filmé des filles qui font de la dance hall d'abord dans la rue, puis ensuite elles ont été dans des salles, j'ai filmé une jeune rappeuse, un trompettiste, voilà, j'ai fait pas mal de films documentaires qui étaient des portraits en fait. Et puis, j'ai aussi travaillé comme chef opératrice sur des plutôt des documentaires avec des réalisatrices, Donc voilà, j'en étais déjà à mon troisième métier. J'étais assistante caméra, j'étais chef op, j'étais réalisatrice de docu. Et puis depuis quelques années, j'enseigne aussi dans des écoles supérieures d'audiovisuel, notamment dans des BTS. Et puis une école à Lyon que je trouve super, une école publique. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier d'assistante opératrice ?
L'assistante opératrice, elle travaille en amont du tournage. Donc déjà, quand on va faire un long, moi, quand j'ai arrêté ce métier, je prenais à peu près 2 semaines d'essai caméra. Je vais chez un loueur et la production a réservé le matériel et je découvre tout le matériel qui a été loué, la caméra et les optiques. Et je teste tout et je teste la compatibilité des objectifs avec la caméra et ça demande beaucoup de temps et c'est assez technique. Je vais aussi tester toutes les configurations qu'on va voir sur le tournage. Si on a des configurations, on est sur une ventouse mise sur un capot de voiture avec la caméra posée dessus, c'est un truc que je vais tester. Si je sais qu'à un moment on va monter la caméra dans un hélico, je vais tester. Donc il y a toute cette prépa. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai lu le scénario, j'ai pris un crayon pendant que je le lisais et chaque fois que je vois qu'il y a une configuration particulière, ben je le note et j'appelle le chef opérateur ou la chef opératrice pour lui dire qu'est-ce qu'elle a prévu, comment on va faire ce qui est écrit avec des mots, avec des images. Donc ça, c'est toute la partie prépa. Elle est assez longue quand même. Et ensuite, on fait des belles caisses, on écrit quelle caisse correspond à la caméra, à quelle optique, etc. Le follow focus, qui va être mon meilleur ami sur le tournage, c'est un outil qui me permet de faire le point pour que l'image soit nette. Donc on a toutes nos caisses et souvent on peut en avoir beaucoup. Du coup ça va rentrer dans un camion. On a aussi tous les retours vidéo pour que et le réal et le chef opérateur ou la chef opératrice puissent voir l'image. Donc on remplit un camion entier de matos. Voilà, ça c'était la prépa. Le temps fort, ça va être le tournage. Là on est une équipe de 3 assistants. Moi la première, un second et un stagiaire en général. Et sur le tournage, si je suis première, déjà, je ne quitte pas la caméra. D'un plan à l'autre, c'est moi qui la déplace avec le machinot. Et je suis l'assistante du cadreur ou de la cadreuse. Et je suis responsable du point. C'est-à-dire que ce soit net. Donc, ça peut sembler bête, mais parce qu'aujourd'hui, quand on a notre iPhone, le point, il a un détecteur, il suit le visage et tout est net. Mais sur un long métrage, en fait, on veut décider où est le point. C'est pas parce que la personne est au milieu que c'est sur elle qu'on veut le point. Enfin, il y a quelque chose d'un peu artistique quand même dans le point. Et les profondeurs de champ, c'est-à-dire l'endroit où c'est net et l'endroit où ça devient un peu flou et où c'est complètement flou, ça peut mesurer 3 cm. Hein. Donc, faut pas se planter. Et du coup, on est responsable du point. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de chef opératrice? En quoi ça consiste?
Oui, alors après, c'est hyper compliqué selon que tu fais un clip, un docu ou une fiction, ce que moi j'ai fait. Mais en gros, tu rencontres le réal ou la réale. Et là, on va commencer un travail où on va discuter entre nous de l'image qu'il ou elle veut pour le film. Et comme les mots parfois ne nous aident pas, parce que c'est des images qu'on veut faire, c'est pas la littérature, on se présente, on parle beaucoup avec des images, ça s'appelle des moonboards, c'est-à-dire que un réalisateur ou une réalisatrice peut m'envoyer vers des liens de films qui l'inspirent pour la lumière et les cadres qu'elle voudrait ou qu'il voudrait sur son film, et on se rencontre et on essaye de, ensemble, être d'accord avant de commencer le tournage sur l'ambiance générale qui veut son film. Voilà. On discute du format aussi, parce qu'on peut faire un film avec une image carrée, comme les télés d'avant, ça s'appelle du 1.33, c'est un peu carré, ou alors une image très très allongée, comme le cinémascope, hein. Comme disait Godard, c'est pour filmer les cercueils ou les serpents. Voilà, donc on se met d'accord sur tout, et ça peut être, c'est assez long en fait. Et on peut bifurquer pendant le tournage et pas tout à fait suivre ce qu'on avait dit, mais en général, ça nous aide à avoir vraiment une base commune de ce qu'on veut faire. Et puis sur le tournage, en général, nous, les chefs op, on est aussi cadreurs ou cadreuses des films. C'est-à-dire que d'une part, on va faire la lumière du film et d'autre part, on sera derrière la caméra. Donc en fait, là, on cumule 2 travails. Du coup, on découpe le film. C'est-à-dire que de ces phrases qui sont écrites dans le scénario, on en fait des plans différents qui sont plus ou moins longs. Un plan, ça peut durer la moitié d'une seconde, comme ça peut durer 1h30. Et puis ensuite, on l'éclaire. Moi, je dis toujours, La lumière, elle est une interprète du film. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Charlie Van Damme qui était mon prof à l'INSAS. C'est vrai que la lumière d'un film, elle change complètement la façon dont on veut raconter l'histoire. Et puis tous les films de genre ont des lumières différentes. On n'éclaire pas un polar comme on éclaire une comédie. Donc c'est tout ça qu'on va construire, hein. C'est vraiment l'esthétisme du film. Et c'est ça le travail d'un chef ou d'une chef opératrice.
Est-ce que dans ton secteur d'activité, ça t'est arrivé de porter beaucoup de matériel ?
Oui, quand j'étais assistante caméra. En fait, moi, quand j'ai commencé le cinéma, j'ai dit c'était en 88, à peu près. J'ai tourné sur des gros longs-métrages, et du coup, on tournait avec des caméras qu'on appelle des caméras 35 mm. Ces caméras 35 mm, quand elles ont un magasin avec de la pellicule qu'on met à l'intérieur, qui est le plus gros des magasins sur lesquels on peut mettre de la pellicule, ça faisait 305 mètres de pellicule, plus ta caméra. Et certaines caméras étaient blimpées pour pas qu'elles fassent toc 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 pendant que ça tournait et que le preneur de son dise j'entends la caméra, mettez quatre manteaux dessus. Donc je te dis pas, une caméra, je sais vraiment pas, mais j'imagine ça faisait autour de 30 kilos quand elle était avec un magasin de 305 mètres, son corps caméra, son zoom devant son parasoleil, le follow focus, je pense qu'on n'était pas loin des 30-35 kilos. C'était super lourd. Tout ça, quand on rangeait le matos pour aller d'un décor à l'autre, on le remettait dans des caisses. Et moi, ces caisses, je les ai portées. Et vraiment, c'était super lourd, quoi. Pas du fait que je sois une femme, je suis moins forte, hein. Moi, je suis quelqu'un de sportif, donc, et j'ai appris à porter, hein. Je me plie sur mes jambes pour porter mes caisses, hein. Mais c'est super lourd. Pendant des années, j'ai eu super mal au dos. J'allais voir un ostéopathe. Ensuite, il se trouve qu'on a abandonné la pellicule et qu'on est passé sur carte ou sur disque dur. Les caméras sont devenues beaucoup plus légères. Je ne dis pas que les caméras ne sont pas lourdes aujourd'hui. En plus, il y a des systèmes de portage qui sont inventés avec des super machinaux qui ont des super idées, notamment un, Loury, qui a créé une bouée qu'on se met autour de nous, qui est comme une bouée que les enfants ils ont pour nager, avec des petites billes à l'intérieur. Et après, je vais mettre mes deux coudes sur la bouée et je vais tenir ma caméra. Et ça m'a hyper soulagé le dos. Et du coup, la bouée, bah, après, il y a plein d'autres systèmes de portage. Après, un gros steadicam, moi, j'en fais pas, mais je pense que ça doit être lourd aussi. Il y a des femmes steadicameuses.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller au travail avec un mal de dos très important et t'as hésité à rentrer chez toi parce que t'étais trop mal?
Moi, déjà, par rapport à la douleur, je prends beaucoup sur moi. Mais j'ai vu un jour un machinot sur un tournage. Il était super jeune, il devait avoir mon âge. On avait tous les deux moins de 30 ans, avoir super mal au dos et faire venir l'ostéopathe pendant la pause repas. Et j'ai eu aussi une assistante caméra qui, à un moment, a eu vraiment très très mal à la main et qui voulait absolument continuer à bosser. Et donc, elle m'amenait les magasins, on était en pellicule, avec sa main, et je voyais qu'il y avait une main dont elle se servait plus du tout. J'ai l'impression que dans le cinéma, il ne faut pas faire acte de faiblesse, quoi. Il faut toujours venir, jusqu'à faire venir ton ostéopathe sur le plateau à l'heure de la pause. Je trouve que c'est assez fou, quoi. C'est comme si tu n'avais pas le droit de flancher un petit peu, quoi. Toute l'équipe compte sur toi. Voilà, donc ça ne répond pas à ta question, parce que ce n'est pas des choses qui me sont arrivées à moi, mais qui me sont arrivées aux gens de mon équipe, ouais.
Ça veut dire que la vulnérabilité et la douleur, c'est quelque chose de tabou dans ton domaine ?
Bah, tu vois, c'est un métier passion. Si t'es pas passionné, on te dit non, mais si t'es pas contente avec un travail à la poste, hein. Je trouve que ça va trop loin parfois, ouais. Je trouve que ça va trop loin. Sur les femmes enceintes, par exemple, je trouve que c'est un métier où il n'y a pas de place pour les femmes enceintes, hein, parce que longtemps, j'ai entendu des jeunes femmes dire que elle ne voulait pas dire qu'elles étaient enceintes, donc elle le cachait et elle faisait des tournages enceintes en le cachant parce qu'elles avaient peur, que, j'ouvre les guillemets, ça affaiblisse l'équipe. Ce qui est totalement absurde, quoi. Enfin, il y a plein de métiers où les femmes continuent à travailler enceintes avec des énormes postes, enfin des femmes médecins, des femmes directrices d'entreprise, des femmes infirmières, des jeunes femmes infirmières qui sont enceintes. Et ben oui, il faut faire avec leur grossesse et pas leur donner des poids trop lourds à porter à ce moment-là, mais elles ne sont pas malades non plus, elles sont juste enceintes, voilà.
Quand tu as commencé ta carrière, ça t'est jamais arrivé de voir une femme enceinte sur un plateau ?
Ben non, moi je suis tombée enceinte de mon fils qui est né en 89. Et on me propose un tournage. Donc moi, j'étais trop contente comme assistante. Je dis au chef op, oui, ok, je prends ce tournage, c'était un court-métrage. J'étais enceinte d'au moins 6 mois. J'étais beaucoup plus mince qu'aujourd'hui, vraiment très mince, donc avec un gros ventre comme ça. Et je lui dis, oui, je te préviens, je suis enceinte, mais il n'y a pas de souci. Lui, il était cool, il m'a pris. Et quand je suis arrivée sur le tournage, il m'a fallu un jour ou deux pour comprendre que tout le monde me faisait comprendre qu'une femme enceinte n'avait pas du tout cette place sur le tournage. C'était l'époque où on tournait en film. Donc il y avait une caméra, c'est une belle 4S, c'est vraiment très lourd, avec un grand magasin de 300 mètres, un grand zoom. Donc je te dis, elle pesait bien 30 kilos cette caméra, et il fallait la déplacer d'un plan à l'autre. Et les machinaux, ils nous aident beaucoup à faire ça. En général, on ne fait jamais tout seul, ils nous disent, bah, tiens, je vais t'aider, je la prends, parce qu'ils savent que c'est lourd. Moi, j'étais quand même avec mon gros bide et tout. Et le machinot, il me regarde et il me dit, bah, c'est pas parce que tu es enceinte que je vais faire ton boulot pour toi, bah, tu t'apportes la caméra. J'étais, mais waouh, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Non seulement il n'y a personne qui est spécialement cool dans le regard avec moi, mais en plus, il n'y a aucune solidarité, quoi. Et j'avais remarqué que même la comédienne qui était une femme, il n'y avait aucune sororité dans le fait que je puisse être enceinte. Je ne demandais pas du tout un régime de faveur, mais bon, c'est clair que quand tu es enceinte, bah, c'est quand même cool de te porter une caméra de 35 kilos, quoi. Même si ton médecin t'a dit, t'as aucun souci, tu peux bosser enceinte. Bah oui, moi je sais pas, aujourd'hui je porterais la caméra d'une fille enceinte, je lui dirais, bah non, c'est peut-être mieux que ce soit moi qui te la porte, quoi. Donc oui, je trouve que c'est pas un lieu où j'ai vu beaucoup de femmes enceintes, mais j'apprends que de plus en plus, les femmes enceintes continuent à bosser, les femmes perchman bossent enceintes, ce qui est dur parce qu'elles tiennent la perche. Donc chapeau vraiment.
Si je comprends bien, lorsqu'on est enceinte, on peut être mise de côté, mais est-ce que c'est plus simple lorsqu'on a des enfants ?
Moi, j'ai eu 3 enfants, donc la première fois que je suis venue enceinte sur les tournages, donc tout le monde savait que j'avais un enfant, puisque, enfin je veux dire, j'ai dû parler de mon enfant, oui, de Victor, de mon fils, et puis après, j'ai eu 2 autres enfants. Enfin, j'ai recommencé à travailler un petit peu après la naissance de Félix, mon 2e enfant, et après la naissance de Lou, tout le monde savait que j'avais 3 enfants. Et non, là, les gens, ils se sont dit... la grande famille du cinéma s'est dit, maintenant qu'elle a 3 enfants, ça va être compliqué pour elle de travailler, puisque on ne pourra plus lui proposer des films à l'étranger. Par exemple, j'ai rencontré des équipes avec qui j'avais travaillé avant, qui m'ont dit, ah oui, on a fait un film à l'étranger, on ne te l'a pas proposé, hein, vu que tu as des enfants. Oui, enfin, un film, ça dure 2 mois, je peux peut-être m'organiser, enfin, peut-être vous pouvez me le proposer, et je vous dirai oui ou non, quoi. Mais ce qui était très intéressant, c'était que le père de mes enfants, on a fait nos études ensemble à l'INSAS, il a fait le même parcours que moi. Lui, quand il a eu 3 enfants, le regard que le cinéma a porté sur lui, c'est que c'était un homme responsable. Et tout le monde lui disait, maintenant que tu as 3 enfants, nous, on va te donner du travail. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on se retrouvait dans un système où le chasseur-cueilleur allait travailler pendant que moi, je restais la femme au foyer. On était en 2000, quoi. Le partage des tâches à la maison, c'est nous qui le décidions. D'ailleurs, c'était pas notre profession, quoi. Dans une société égalitaire, j'aurais pu faire un film à l'étranger pendant qu'il gardait les enfants, et lui, ensuite, il part à l'étranger, et moi, je garde les enfants, enfin. Mais moi, j'ai eu l'impression je suis arrivée un peu avant, que vraiment c'était une vision du partage des tâches dans un couple. Quand j'avais 3 enfants, j'étais encore blacklistée. Avant, j'étais blacklistée, j'étais enceinte. Ensuite, j'étais un peu blacklistée parce que j'avais 3 enfants. Et donc, oui, je peux dire que je trouve que la grossesse et la maternité, c'est un frein dans notre métier. Et j'espère que ça ne sera plus pour les jeunes les jeunes femmes qui arrivent après nous, qu'elles n'auront plus à ça, qu'on comprendra qu'elles peuvent continuer à bosser en étant enceintes jusqu'à 6 mois, comme normalement on pourrait, puis qu'elles pourront travailler après, même si elles ont des enfants en bas âge, si elles en font le choix, si elles ont envie de rester avec leurs enfants, c'est leur souci, voilà. Mais qu'on ne sera plus dans une société patriarcale qui décide que, ouais, quand les enfants sont petits, c'est la mère qui s'en occupe.
En préparant l'enregistrement, tu m'as dit que tu faisais partie d'un collectif. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Oui, tout à fait. C'est le collectif FALC, Femmes à la caméra, qui existe depuis 2018. Et en fait, c'est nous, les femmes chefs opératrices, les DIT, les machinistes, les chefs électro aussi, et puis les assistantes caméra, et des étudiantes. On s'est mis ensemble parce que on est un collectif de femmes et de LGBTQ+, donc toutes les minorités. On voulait créer une sororité entre nous, en parlant entre nous des difficultés qu'on rencontre dans notre métier, aussi en faisant un partage de connaissances. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Et puis, c'est vraiment la sororité à 100%. Donc, on peut faire avec le collectif Falk aussi bien une conférence sur la maternité, ce qu'on a fait à la FEMIS une année avec des intervenantes sociologues. On peut aussi faire des ateliers de portage de caméras entre nous pour tester différents systèmes de portage qui existent chez les loueurs. On se réunit une fois par mois, tout ensemble, et on est 169, donc on est rarement tout ensemble, mais on a créé des groupes de travail. Moi, je fais partie du groupe Le Regard Féminin, sur lequel on se questionne s'il existe un regard féminin au cinéma, et on apporte pas des réponses, mais plein de pistes super passionnantes pour comprendre et conscientiser comment le cinéma existe depuis qu'on a oublié qu'Alice Guy, c'était elle qui avait inventé le cinéma de fiction, et qu'on essaye de réhabiliter. Il y a un ciné-club, et on fait même de l'escalade ensemble. Voilà. En fait, c'est vraiment un groupe de femmes qui se questionnent, et aussi on veut préparer pour que pour les suivantes, ce soit plus facile, et qu'il puisse y avoir des images où on voit des femmes derrière la caméra. Voilà, on fait vraiment beaucoup de choses pour être présente, quoi.
On a parlé de douleur physique. Est-ce qu'on peut parler aussi de charge mentale?
Oui, donc moi, je prendrais d'abord la charge mentale quand tu as des enfants et que tu dois trouver un système de garde pour tes enfants et que tu travailles sur des tournages. Tu es un peu comme les infirmières, en fait. Tu ne travailles pas tout le temps aux mêmes horaires. Hein. Tu peux faire des nuits, tu peux faire des mixtes. Donc, trouver des systèmes de garde pour tes enfants quand ils sont petits, c'est vraiment compliqué. Moi, mes enfants, ils étaient à la crèche et j'avais aussi une jeune fille au père en plus qui m'aidait, parce qu'il se trouve que je me suis séparée du papa de mes enfants quand ils étaient assez jeunes. Donc, je me suis retrouvée mère célibataire avec trois enfants à travailler dans le cinéma et c'était vraiment compliqué. Du coup, moi, c'est vraiment la solidarité familiale qui m'a aidée. En fait, mes parents m'ont beaucoup aidée et ma sœur m'a beaucoup aidée aussi. Du coup, je rebondis parce que moi, j'ai eu cette chance-là, mais on a été contacté par Audience qui nous a proposé de travailler avec eux sur la question de créer des crèches sur les tournages. Et c'était vraiment une réussite. Voilà, et Audience, s'il propose cette solution-là, je pense que c'est une solution qui, j'espère, pourra fonctionner pour les futures jeunes mamans et papas qui travailleront sur les tournages. Du coup, une autre charge mentale, ça peut être aussi peut-être quand on est en petite équipe. Enfin, moi, j'ai fait quelques tournages documentaires en petite équipe. Donc là, on est plus 50 ou 100. Hein. C'est très simple. On est une réale, une personne à l'image avec un assistant, une personne au son. Donc sur ces tournages-là, moi, puisque j'étais à l'image, je faisais des journées de dingue, quoi. Le matin, j'allais chez un loueur qui était fermé, qui m'avait donné un code pour que je récupère mon matos caméra. Dans mon matos caméra, de nouveau, on me donnait un code pour que je récupère une voiture qui était garée dans une rue là-bas. Dans la rue plus loin, j'allais chercher une voiture et je devais au passage aller chercher la réale en voiture qui se mettait sur le chemin. Puis j'allais chercher le preneur de son. Puis je conduisais la voiture pour aller sur le tournage. Puis je tournais, bien sûr, en sortant toute seule mon matériel lumière, mon matériel caméra. Puis quand j'avais fini le tournage, je remettais tout ça dans ma voiture. Et puis je ramenais sur le chemin la réale et le preneur de son. Puis je restais avec une voiture, excusez-moi, remplie de matériel, que j'allais remettre chez un loueur qui entre-temps avait fermé. Donc j'avais un code pour rentrer chez le loueur, déposer tout mon matos chez un loueur fermé. Donc c'est vraiment l'ambiance, tu dis j'en peux plus, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était... Il y a un moment où j'ai fait plusieurs tournages comme ça, j'ai trouvé ça épuisant, quoi. C'est une charge mentale que nous, les gens d'image, enfin, pourquoi c'est nous qui faisons tout ce truc, quoi. C'est hyper fatigant.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans le métier ou qui est encore en études et qui nous écoute?
Moi, j'étais passionnée par mon métier et j'ai découvert peut-être un peu tard que c'était bien que ce soit pas que mon métier qui compte, en fait. Et par exemple, moi, je me suis mis à faire de la guitare. Et ça a été comme une fenêtre qui s'est ouverte, en fait. J'étais plus que focalisée sur mon métier. Parce que j'étais quelqu'un qui aime l'image, donc je vais voir des expos. Mais quand je vais voir des expos, je pense toujours au cinéma. Je vais beaucoup au cinéma. Et tout à coup, ouvrir une autre fenêtre, comme apprendre à jouer de la guitare, ça m'a beaucoup aidée. Donc peut-être, oui, c'est super d'être passionnée, mais... il ne faut pas oublier d'ouvrir des petites fenêtres, parfois un peu sur le côté, pour prendre l'air. Voilà.
C'était le 7e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci à Valérie pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisanté.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.